Les enjeux internationaux.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Guillaume. Donc on reste sur le terrain économique avec d'abord le partenariat avec les enjeux internationaux et le dessous des cartes. Demain sur Arte à 19h30, donc nos amis du dessous des cartes vont parler de la téléphonie mobile et le sous-titre Les faces sombres. Alors sans transition bien sûr, on va passer à l'Asie du Sud-Est. Jean-Raphaël Chaponnière, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes économiste, Asia Centre également. On va voir un petit peu comment tout cela est organisé en Asie du Sud-Est, qui est une appellation, une dénomination elle-même assez vaste. Alors, les Asiatiques appellent d'ailleurs cette situation ou cette réalité le bol de nouilles. Je dois dire qu'on n'y comprend pas souvent grand-chose. Alors, ce qui était simple autrefois, c'était l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, aujourd'hui une dizaine de pays, qui avait été créée à partir de 5 pays à l'origine, en 1967, évidemment en pleine guerre du Vietnam, c'était par rapport à la Chine. Puis alors, aujourd'hui, il y a une floraison d'associations économiques aux finalités douteuses, typiquement asiatiques par leur combinaison molle et évolutive, sans doute peu cohérente à moyen terme. Et en plus, il y a deux grands acteurs dont ils font planer leur ombre. C'est évidemment la Chine et qui pratique et propose le libre-échange. Et c'est bien sûr les États-Unis. Alors c'est un paysage vraiment extrêmement complexe à comprendre. Depuis quoi, une dizaine, quinzaine d'années?
Peut-être juste un mot pour situer donc l'Asie du Sud-Est, hein, qui est pas une région d'ailleurs géographique, qui est étonnante par sa diversité. Culturelle, si on prend religion musulmane en Indonésie, bouddhisme en Thaïlande,
christianisme aux Philippines.
Politique entre communisme au Vietnam, démocratie en Indonésie, démocratie très musclée à Singapour. Et enfin, au niveau revenu, on a Brunei, qu'il faut pas oublier, 500 000 habitants, et Singapour, qui sont à peu près au niveau du Luxembourg. Tout en bas, Myanmar, qui est le Soudan.
La Birmanie.
Qui est le Soudan, à peu près, quoi, oui, en termes de revenus. Entre les deux, vous avez l'Indonésie au niveau du Maroc et la Tunisie, la Malaisie qui serait au niveau de la Turquie. Donc ça, c'est une étonnante diversité. Et par contre, ce qui est étonnant, c'est effectivement c'est cette intégration qui dure, qui est la plus ancienne. L'ASEAN aura quand même 50 ans l'année prochaine. Et elle s'est créée, comme vous le dites, dans un contexte géopolitique. Et après la victoire donc vietnamienne, l'unification vietnamienne, en fait la théorie des dominos s'est avérée fausse et l'économie est devenue l'objectif de l'ASEAN.
Et l'ASEAN s'est élargie d'ailleurs à des membres des États du continent.
Alors l'économie est devenue sa priorité. Et contre toute attente, après beaucoup d'essais, elle a créé une zone de libre-échange qui a marché et qui a marché non pas parce que son objectif était la promotion des échanges, mais parce que l'ASEAN en tant que telle redoutait la concurrence de la Chine auprès des investisseurs étrangers, donc il fallait qu'elle se présente comme un marché intégré. Et l'augmentation des échanges entre les pays s'est fait, mais en fait, ça a plutôt accompagné ce qui se passe au niveau mondial. Et c'est plutôt des échanges qui n'ont en fait pas grand-chose à voir à ce que décide déjurer l'ASEAN, mais c'est des échanges de facto qui traduisent en fait l'intégration entre les entreprises dans le monde.
Oui, j'en profite pour citer votre ouvrage que vous aviez rédigé avec Marc Lottier. Moi, je l'ai utilisé parce qu'il est très utile avec Marc Lottier. Les économies émergentes d'Asie, c'était chez Armand Collin, et c'est toujours chez Armand Collin en 2014. Ce qui frappe dans toutes ces combinaisons, c'est au fond le pragmatisme des acteurs.
Oui,
c'est le contraire de l'Europe, hein, oui. D'une certaine façon. La construction européenne.
Ce qu'il faut voir, par exemple, il y a des choses qui sont un peu analogues. Il n'y a pas eu de débat, en fait, mais l'ASEAN s'est élargie sans s'approfondir. Et puis, en fait, elle a fait l'approfondissement après. Elle s'est élargie très vite en intégrant ses adversaires, au plan politique, c'est un succès parce que c'était quand même une région où il y avait des tas de litiges frontaliers, ça a toujours été résolu. Et puis, cet élargissement à ses adversaires, c'est aussi un succès. Mais, par contre, la grande différence avec Bruxelles, c'est grosso modo, le secrétariat de l'ASEAN est structurellement très faible. Ça a été voulu comme ça. Il est situé à Jakarta. La Malaisie, Singapour craignaient que, étant situé à Jakarta, il y aurait une mainmise indonésienne. Donc, on lui a donné très petits moyens. Grosso modo, actuellement, son budget, c'est celui d'un commissaire. Alors, bon, certes, le commissaire est un commissaire européen. Ça veut dire qu'il est très bien payé, mais ça veut dire aussi qu'il y a très peu de moyens à l'ASEAN. Et si vous voyez, au départ, ce qui était déterminé, c'est que le budget de l'ASEAN serait réparti également entre les pays. C'est-à-dire que le Laos paye autant que Singapour. Donc ça limite considérablement le budget. Et les fonctionnaires qui sont là organisent des réunions, 1000-1200 réunions par an. on peut se poser des questions, sauf que ça crée effectivement un climat de confiance entre les gens. Mais le secrétariat n'a aucune mémoire, n'a aucune capacité, enfin qu'à Bruxelles, pour le meilleur et pour le pire, dans le cadre de l'ASEAN.
Alors dans sa géopolitique du Japon, Jean-Marie Bouissou, j'ai oublié l'éditeur, il y avait un graphique extraordinaire paru il y a un peu de temps, avec toutes les organisations, sous-organisations, etc. On y perd son latin.
Alors, en fait, tout ça, ça a commencé en 2000 et l'impulsion est venue de l'extérieur. Quand il y a eu commencement de fatigue au niveau des discussions multilatérales, le Japon d'abord, qui était plutôt habitué au multilatéral, puis la Chine, puis la Corée, se sont lancés dans des accords de libre-échange avec chacun des pays. Donc c'est d'où l'origine du
mode de Nouilles. Il y a du bilatéral dans le multilatéral.
Oui, c'est ça. Et ensuite, donc il y a tous ces accords qui sont créés. Ensuite, bon, quoi font tous ces accords un peu plus récemment? En fait, la Chine et d'autres pays ont proposé, un ensemble d'accords qui recouvre toute la région et qui pourrait consolider tout ça. Il faut bien voir que c'est très différent du TPP qu'on va parler. C'est des accords qui sont plutôt de la posture commerciale. Chaque fois que dans ces accords de libre-échange entre deux pays qu'il y a des problèmes, disons, on met beaucoup d'exceptions, on parle pas de barrières non tarifaires, il y a beaucoup de choses dont on parle pas. Donc ça, c'était la voie un peu d'intégration asiatique. Et ensuite, donc, est arrivé le TPP. Le TPP, l'initiative n'est pas du tout américaine. Au départ, comme toujours en Asie, en fait, les États-Unis suivent des autres initiatives. Et là, il y a eu une initiative il y a quelques années entre la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Chili, ajouté à Brunei, de créer un petit ensemble qui aurait sans doute eu aucun avenir si les États-Unis s'étaient pas ajoutés dedans. Ça a fait boule de neige, d'autres pays qui sont venus, et parmi les pays de l'ASEAN, il y en a deux. Donc trois. Singapour, la Malaisie et le Vietnam. Et ça, c'est un accord beaucoup plus profond, c'est un accord qu'on dit donc au-delà
plus contraignant,
plus contraignant, mais qui va au-delà des frontières. Hein, c'est-à-dire que marché public, normes, enfin exactement ce qu'on a le TAFTA, exactement la même chose que ça. Mais qui a, dans la différence du TAFTA, qui a un arrière-pensée, bien sûr, géopolitique.
Alors,
qui
TAFTA,
était un peu le containment de la Chine par les Américains.
Partenariat transpacifique sur le commerce et les...
Transpacifique partnership.
Voilà, partenariat transpacifique. Il faut le décoder rapidement de l'anglais au français, on retrouvera...
Derrière, par rapport au TAFTA, il y a quand même cette idée de containment. Le problème, c'est que par rapport donc à la région qui nous intéresse, l'ASEAN, c'est un accord qui clive. Donc le Vietnam est rentré dedans. Par exemple, l'accord demande la liberté syndicale. Mais dans un contexte asiatique, c'est-à-dire que il suffit que le Vietnam fasse comme Singapour pour être dans les normes.
Bien, alors
le Vietnam est sans doute le pays qui gagnera le plus.
On a l'impression que tout ça est très évolutif de 5 ans en 5 ans. C'est-à-dire que le paysage sera encore différent dans 10 ans.
Je pense que la grande différence qu'on va avoir, c'est l'an prochain ou à la fin d'année. C'est-à-dire, le TPP a été ratifié et sera ratifié par tous les pays asiatiques. Le seul qui l'a pas ratifié, c'est les États-Unis. Si les États-Unis ne ratifient pas le TPP, quel que soit ce qu'on peut penser du TPP, s'ils ne ratifient pas le TPP, c'est effectivement une perte de face considérable en Asie, puisque tous les pays en attendent beaucoup, il y a d'autres pays, et bien sûr, un boulevard pour la Chine.
On y reviendra, on n'a pas assez parlé de la Chine, mais faute de temps. Merci, en tout cas, on peut envoyer votre ouvrage, Jean-Raphaël Chaponnière, Les économies émergentes d'Asie, chez Armand Collin. Nous nous retrouvons lundi, Guillaume, et franceculture.fr pour écouter l'émission, la télécharger.
Merci beaucoup Thierry Garcin.